Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Noël Amuse Tukabami.
Certains députés rentrent à l'Assemblée nationale au détriment d'autres qui y siégeaient déjà. La Cour constitutionnelle a rendu hier lundi un arrêt unique proclamant définitivement élus 500 députés nationaux. Des 134 requêtes introduites en rectification des erreurs matérielles, des arrêts rendus le 12 mars, 19 ont été déclarés recevables et fondés. Une tornade a fait des dégâts matériels dimanche dernier dans la cité de Kimpese au Congo central. L'hôpital général de référence Ime Kimpese a été touché. Le médecin-chef de zone de Kimpese demande une assistance urgente des autorités pour héberger les malades hospitalisés dans de bonnes conditions. Nombana Razafinisoa est l'invitée de ce journal. Elle est la chef de projet dénommé Koteko, combattre le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement de cobalt, un projet de l'Organisation internationale du travail OIT. Bonjour à tous. La Cour constitutionnelle a rendu hier lundi un arrêt unique proclamant définitivement élus 500 députés nationaux. C'était après avoir déclaré recevables et fondés certains dossiers de ceux qu'il avait saisis en correction des erreurs matérielles de son arrêt du 12 mars. Pas de grands changements constatés à l'issue de son audience publique en rectification de ces erreurs matérielles. Quelques noms des députés reviennent à l'Assemblée nationale au détriment d'autres qui y siégeaient déjà. Jeff Ngoy.
Parmi les 19 députés ayant eu gain de cause, nous citons par exemple pour la circonscription électorale de Kabare dans le sud de Kivu, Serge Bahati de la FDCA, qui reprend son siège à l'Assemblée nationale en remplacement de Claude Nyamugabo. Jethro Muyombi de l'UVT est réhabilité dans la circonscription électorale de Lubumbashi au Katanga. Gilbert Kankonde de l'UDPS Tshisekedi conserve son siège au détriment de Pascal Machimba dans la circonscription électorale de Ndemba au Kasai central. Tunda Kasongo est définitivement élu dans la circonscription de Kibombo, Cléophas Munganga, dans la circonscription de Bulungu. Robert Nyondo remplace Moderon Simba à Mwanda. Fonchi Mukendi pour Chilenge, Taylor Lubanga conserve son siège et Nkuna Mudikolele débouté. Olivier Sendula remplace Sami Badibanga à Katanda. Cet énième arrêt définitif de la Cour vient ainsi clore le débat sur la correction des erreurs matérielles en créant des mécontents qui étaient déclarés définitivement élus.
L'Union sacrée pour la nation organise ce mardi des primaires pour départager 3 candidats au poste de président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Les députés membres de la majorité parlementaire vont donc élire entre Modeste Bahati Lukwebo, Vital Kamere et Christophe Mbosso qui sera le prochain candidat président de l'Assemblée nationale. Convoqué par le présidium de l'Union sacrée, ces élections primaires visent à trancher entre ces 3 candidats sans susciter trop de frustration, estime un membre du présidium. Un reportage de Michel Kifindangoy rendu par Murphy Fika.
C'est depuis 2 mois maintenant que les leaders de l'Union sacrée se battent à l'interne pour briguer le perchoir de l'Assemblée nationale. Un seul poste pour plusieurs candidats, personne ne veut faire allégeance à l'autre. Ce qui bloque depuis 1 mois maintenant l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Après plusieurs tractations, 3 candidats se sont dégagés. Il s'agit de Modeste Bahati Lukwebo de l'AFDCA, Vital Kamere de l'UNC et l'actuel président du bureau provisoire, Christophe Mbosso. Pour dégager ces 3 candidats, tous membres du Présidium, le secrétaire général de l'UDPS, première force politique de l'Union sacrée, invite tous les députés de la majorité parlementaire à l'élection primaire afin de désigner un seul candidat parmi les 3. D'après son communiqué signé ce lundi à Kinshasa, Augustin Kabuya fixe l'élection pour ce mardi après-midi au Palais du Peuple.
À la cité de Kimpese au Congo central, une tornade a causé plusieurs dégâts matériels dimanche dernier. Une bonne partie de la toiture du pavillon de médecine interne de l'hôpital général de référence de Ime Kimpese et d'autres bâtiments de l'hôpital, dont celui qui abrite le bureau central de la zone de santé, a été emportée. Le médecin-chef de zone de santé de Kimpese, Dr Jean-Claude Batalekwao, qui confirme l'information, appelle à une assistance urgente des autorités puisque l'hôpital fait face à des difficultés pour héberger les malades. Docteur Jean-Claude Batalekwao est avec Nana Plurich Mambo.
Besoin d'intervention d'urgence car le malade étant confiné dans les quelques chambres dans des conditions inhumaines pendant que les pluies se poursuivent au quotidien et les salles sont inondées d'eau. Dieu merci qu'il n'y a pas eu perte en vie humaine, mais du moins on a perdu beaucoup d'histoires, du genre, toute la documentation du bureau central, les ordinateurs qui y étaient et autres matériels. Il s'est de rappeler qu'au bureau central, l'urgence s'impose, car la chaîne de froid pour le maintien des vaccins pose de gros soucis. C'est ainsi que nous demandons à tous pour une aide d'urgence pour que nous puissions avoir tôle, clous, bois, triplex et autres biens pour pouvoir réparer en urgence cette toiture, afin que la chaîne de froid qui garde le vaccin soit réhabilitée en urgence.
Parlons environnement encore, cette fois avec cette information sur Maître Olivier Ndoole de Congo-Kinshasa, passionné et engagé dans la défense de l'environnement et des droits fonciers, qui est récompensé à l'international au prestigieux prix Global Citizen 2024 dans la catégorie climat, reforestation et nature. Il est parmi les 5 nominés à travers le monde entier. Cette annonce a été faite il y a quelques jours. Le prix Global Citizen met en effet en lumière les individus et les organisations qui œuvrent pour un changement positif face aux défis mondiaux. C'est depuis une quinzaine d'années que cet activiste foncier s'engage dans la lutte pour la protection de l'environnement et les droits fonciers. Son dévouement et son travail acharné lui ont valu ce prestige. Je prie. On écoute Maître Olivier Ndoole qui parle de sa lutte au micro de Denise Loukesson.
C'est par rapport aux efforts couronnés dans le domaine des droits fonciers, la justice environnementale et tout ce qu'il y a comme contentieux stratégique sur les questions de l'environnement, la protection en masse des droits des communautés locales par rapport à la terre. Il a plu à ces panels au niveau mondial d'être désigné parmi ces milliers de militants congolais au niveau de la RDC, parmi les milliers de militants de l'environnement au niveau global, d'être retenu parmi les 5 qui devraient être sélectionnés et primés pour 2024. Permettez-moi donc de reconnaître que c'est un effort collectif, un travail d'équipe, parce que vous comme partenaire, il y a l'État congolais qui a mis en place aussi des lois, un cadre juridique, des milliers de paysans qui ont payé de leur sang, de leur liberté. Certains sont en prison à cause de la protection de l'environnement et protection des droits fonciers. Les centaines de cogardes qui sont tombés sur le front, ce sont des milliers et des milliers de gens qui s'engagent, qui se mobilisent pour que nous puissions avoir un monde plus juste. Et je pense que c'est pour ça que nous avons eu à ce prix.
Et puis hier, lundi 22 avril, c'était la Journée mondiale de la Terre. Cette journée, instaurée par les Nations unies, vise notamment à accompagner les personnes et les organisations à diminuer leur impact négatif sur l'environnement. Elle vise également le passage à une économie plus durable qui puisse bénéficier à la fois et à l'humanité et à la planète. Ce deuxième objectif est la raison d'un attachement à la Terre par les différentes communautés de la région de Beni-Boutembo et Lubero. Le reportage de Sadiki Aboubakar.
La terre est notre richesse. Elle est un symbole du pouvoir d'un peuple, affirme un notable de la ville de Beni. Dans l'est du pays, plusieurs communautés ont pour activité principale l'agriculture et l'élevage. Voilà d'où provient l'attachement de la population à la terre. La terre est d'une valeur non seulement économique pour le peuple de la région de Beni, mais aussi culturelle, affirme Kamba Lepirous, président de l'association culturelle Kiandaira à Beni.
Dans notre culture, la terre c'est notre tout, parce que ça nous fait la richesse. En y cultivant, ça nous fait la richesse en y élevant nos bêtes. C'est ce qui fait que, même si on nous tue aujourd'hui, vous allez nous voir demain sur nos propres terres. Parce que nous sommes collés, nous sommes attachés à notre terre. On ne va pas à la terre, mais la terre se négocie auprès des coutumiers. Pour que les vassals sachent que je dois toujours renouveler le contrat avec mon chef coutumier ou bien mon chef terrier.
Sachez par ailleurs que la mauvaise gestion de la terre est souvent à la base de plusieurs conflits fonciers et source de l'insécurité dans la région de Beni-Boutembo et Lubero. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Notez aussi l'ouverture ce lundi 22 avril à Kinshasa d'un conclave sur le bassin du Congo, un projet de l'ambassade des États-Unis à RDC organisé par le groupe Utali Kweti et Congo River. Objectif, rassembler les parties prenantes locales pour partager leurs expériences et construire des réseaux qui soutiennent des projets qui investissent dans les populations du bassin du Congo. Jeff Opela.
Environ 130 participants provenant des différents pays ont répondu à ces rendez-vous. en particulier les artistes fabricants des ouvrages en plastique. Ces conclaves s'est déroulé sous forme d'exposés suivis d'échanges, ensuite des travaux du groupe pour se terminer en restitution en plénière. L'ambassadrice des États-Unis, Lissy Tamla, explique l'intérêt particulier des États-Unis à ces conclaves.
Nous pensons que le bassin du Congo représente une richesse mondiale, mais c'est pas juste pour les aires protégées, pour les forêts, mais c'est vraiment pour la communauté qui vit dans les forêts. Il faut faire quelque chose pour les protéger. Donc nous pensons que cette conclave va vraiment aider avec l'échange d'idées et ça va dans le sens de tous nos programmes américains.
Pour sa part, le professeur Malassi, conseiller politique et diplomatique en charge des changements climatiques, invite les participants à proposer des projets concrets qui seront soutenus par le gouvernement et l'ambassade des États-Unis comme bailleur de fonds.
Et je suis content parce que dans ce colloque, nous avons appris que l'un des résultats sera justement qu'il y aura des projets développés par les artistes et que le gouvernement et son partenaire, les États-Unis, pourront appuyer.
Retenez que ces travaux se poursuivent jusqu'au mercredi 24 avril 2024.
En Ituri, comment expliquer à la crème intellectuelle de l'Ituri la recherche d'une paix durable dans la province? Cette question a été au centre d'une conférence débat animée dimanche à Bounia par le réseau des intellectuels de l'Ituri. Une centaine de personnes issues des différentes couches de la population ont pris part à cette activité. Selon les organisateurs, l'objectif est de susciter principalement au sein de la jeunesse l'esprit d'entrepreneuriat et de leadership pour conduire la province de l'Ituri vers le développement. Les orateurs ont aussi exposé sur la contribution des jeunes dans la résolution pacifique des conflits et sur la lutte contre la désinformation. C'est un reportage de Jean-Claude Lokidile.
Étudiants, universitaires, notables, journalistes, membres des mouvements associatifs des jeunes et des femmes ont pris part à cette rencontre. Au regard de la crise qui affecte l'Ituri, il y a eu urgence de s'associer aux efforts des autorités pour apporter sa contribution au retard de développement en Ituri. Sami Sougabo est le responsable du réseau des intellectuels de l'Ituri.
Vu la gravité de la situation qui guette notre province, on s'est dit que nous, les intellectuels, on peut donner un plus, apporter aussi nos soutiens au gouvernement provincial sur quelques thématiques par rapport à notre province.
L'entrepreneuriat des jeunes, le leadership transformationnel, la cybercriminalité ou encore la résolution pacifique des conflits ont fait l'objet d'exposés par les experts, des sujets d'actualité qui ont capté l'attention des participants à l'instar d'Emmanuela Salama.
Parce qu'actuellement, nous savons bien que nous nous plaignons trop à propos du chômage, mais avec des expériences là, nous savons que nous allons directement emboîter les pas pour commencer. Parce qu'on nous a dit, pour commencer, ça ne demande pas beaucoup d'argent, mais ça demande juste notre tête pour écrire ne fût-ce que le projet, ça ne sera pas difficile pour nous. Nous sommes des intellectuels.
Cette structure a également pour objectif de combattre le recrutement des jeunes dans les groupes armés et le chômage. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Donner plus de visibilité économique en RDC à la France, connue plus pour sa diplomatie, c'est l'un des objectifs de la semaine française qu'organise la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise du 24 au 26 avril à Kinshasa. Bertrand Bisengimana, président de cette chambre, juge insuffisant le volume des échanges commerciaux entre la RDC et la France au regard du potentiel économique de ces deux pays. Il le dit à Cynthia Bachizina-Bizana.
À notre sens, ces volumes sont insuffisants. Et je crois qu'à ce niveau-là, la Chambre de commerce peut jouer un rôle important pour augmenter le volume des échanges. Comme vous le savez, nous sommes une ancienne colonie belge, même si nous sommes un pays francophone. Et donc, je crois que nous ne sommes pas assez connus au niveau des entreprises françaises en France. Un des premiers enjeux de la semaine française, c'était de donner plus de visibilité à la France en République démocratique du Congo. C'était donner une visibilité économique. La France est très connue pour sa diplomatie, mais pas assez pour le secteur économique. Et nous, comme Chambre de commerce et d'industrie, qui avons été créés en 1987, donc nous voulions alors mettre l'accent sur la présence des entreprises françaises qui sont en RDC, mais aussi sur celles qui voudraient venir en RDC. Nous avons au total 23 entreprises françaises qui viennent de France, sans compter les entreprises qui opèrent déjà en RDC.
L'invité.
L'Organisation internationale du travail, OIT, a organisé vendredi dernier à l'Université de Lubumbashi un colloque sur la lutte contre le travail des enfants dans les mines. C'est dans le cadre de son projet dénommé COTECO, combattre le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement de cobalt. Pour en parler, la chef de ce projet et l'invité de Radio Okapi, Nombana Razafinisoa, s'entretient avec Jean Gandou.
Madame Nombana Razafinisoa, bonjour.
Bonjour, messieurs.
Bah, dites-nous le pourquoi de ce colloque.
Ce colloque entre dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants, qui est un projet mis en œuvre par l'OIT en partenariat avec le gouvernement et les partenaires sociaux. Dans le cadre de collaboration entre l'OIT et le gouvernement, on a identifié quelques axes stratégiques prioritaires sur lesquels on voudrait intervenir pendant 4 ans. Et la lutte contre le travail des enfants fait partie de ce programme prioritaire du gouvernement de la République. Et c'est ainsi que l'OIT, à travers le projet COTECO, combattre le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement de cobalt, a mis en place un projet et a organisé cette activité avec l'Université de Lubumbashi et l'Observatoire congolais de l'environnement.
Quels sont les principales stratégies que vous pouvez avoir pour que les enfants sortent enfin des mines, parce que les colloques de ce genre, on en a eu tellement.
Le colloque a pour objectif vraiment de susciter les recherches, parce qu'on sait qu'il y a tant de littérature sur le travail des enfants, mais ces recherches sont éparpillées au niveau des différents ministères, au niveau des différentes ONG, au niveau des différents partenaires, même dans le tiroir des universités après les recherches faites par les étudiants. Mais maintenant, comment est-ce qu'on va rassembler tous les résultats de ces recherches pour que le grand public et toutes personnes ou entités qui ont intérêt à lutter contre le travail des enfants puissent avoir des informations et utiliser les informations pour prendre des décisions, pour élaborer des programmes ou projets, pour mettre en place des politiques qui répondraient aux besoins et au contexte du pays. C'est ça le colloque. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants? Si nous avons écouté cette journée, le problème est énorme. C'est un problème également qui touche plusieurs domaines. Donc, si on veut lutter contre le travail des enfants, il faut avoir une approche vraiment holistique. Depuis la phase de l'élaboration de politiques, mise en œuvre de ces politiques, et puis suivi de la mise en œuvre de ces politiques, contrôle et puis mesures rectificatives aussi de ce qui a été fait par rapport à ces politiques. Là, je parle des politiques, mais après également, il faut renforcer la capacité pour que les gens comprennent d'abord de quoi on parle si on parle du travail des enfants. Et puis, quelles sont les différentes mesures qu'il faut développer si on veut lutter contre le travail des enfants?
En fait, le travail des enfants, c'est quoi?
Ce travail des enfants, je résume en 2 points, ce sont les travails qui risquent d'impacter au développement moral, psychologique, social des enfants qui les privent de la scolarisation. Exemple, il y a plusieurs types de travail des enfants, que ce soit dans l'agriculture, dans les mines, dans le travail domestique. Peut-être je prends ça parce que c'est le plus courant qu'on peut comprendre facilement. Le travail des enfants domestiques, par exemple, il y a les enfants de 5, 6, 12, 13 ans qui travaillent dans un ménage. Ils commencent à travailler à partir de 3h, 5h, 6h du matin et couchent très tard la nuit après que tout le monde ait déjà été servi. Donc ça, vraiment, c'est déjà une pire forme de travail des enfants, mais c'est un cas type de travail des enfants.
Comment pallier ça?
À un problème du travail des enfants, ça nécessite une réponse holistique. Comment pallier? Déjà, est-ce que le pays dispose de lois? La réponse, c'est oui, pour lutter contre le travail des enfants. Est-ce que c'est appliqué? C'est une question qui se pose. Est-ce qu'il y a un suivi de l'application de ces lois? Une question qui se pose également. Est-ce qu'il y a une mesure de répression pour les cas des personnes qui enfreignent la loi? Ça, c'est déjà une action qu'il fallait prendre. Maintenant, quelles sont les sources, les racines du travail des enfants? Bon, on dit toujours la pauvreté. Donc, quel est le problème au niveau des ménages? Est-ce que les parents n'ont pas suffisamment de revenus, donc il faut appuyer les ménages? Est-ce qu'il y a un problème d'emploi, donc chômage des parents, donc il faut créer des emplois? Est-ce que les salaires ne suffisent pas à subvenir aux besoins de la famille, donc la politique salariale aussi doit être examinée? Est-ce que les formations, que ce soit formation professionnelle ou formation de base qu'on donne, permettent aux enfants de s'autonomiser plus tard? Donc là, il y a déjà aussi d'autres aspects qu'il fallait considérer.
Madame Roman Razafinisoa, je vous remercie.
Je vous en prie, monsieur.